Voilà. Lors des états généraux de la bioéthique, une des questions qui a été abordée, c'était la fin de vie. Et donc, nous avait demandé de faire des fiches sur ces questions, voilà, pour alimenter la réflexion des chrétiens et leur donner les repères. Et donc, je voudrais justement vous donner un résumé de cette fiche. Mais avant, j'aimerais donner aussi, moi, un témoignage. J'ai entendu un médecin qui racontait une histoire terrible qui s'est passée en Belgique pour vous dire le danger, au fond, qu'une perte de sens de la vie pousse des gens à, je dirais, une éthique ou utilitariste. C'est très concret. C'est une mère de famille de 3 enfants d'une 40aine d'années qui a fait un AVC. Suite à cet AVC, voilà, elle boitait. Bon, ça paraît pas. Et en fait, elle a fait une dépression. Eh bien, cette femme a demandé l'euthanasie pour convenance personnelle, en demandant que ses organes soient donnés après sa mort. Et ce que je trouve terrible, et donc ça a été accordé, hein, cette demande pour convenance. Voilà, je me dis, mais cette personne, elle avait besoin de soutien, justement. Et au fond, la réduction, ce qui me frappe, c'est l'intériorisation. Donc je ne sers plus à rien. Donc au moins, si je donne mes organes, je sers à quelque chose. Donc la réduction du corps à ce qui fonctionne, à ce qui est utile. Je trouve que c'est une terrible intériorisation, voilà, d'une mentalité utilitariste. Et voilà, donc il faut être conscient que ces législations provoquent des glissements, effectivement, éthiques. Et donc, dans cette fiche, en résumé, nous disions que face aux revendications de légaliser l'euthanasie ou le suicide assisté, hein, qu'il fallait déjà rappeler les possibilités de la loi actuelle. Tu l'as rappelé. Hein. Effectivement, par exemple, déjà la première loi Leonetti, une des choses très importantes de la première loi Leonetti, c'est qu'elle donnait un cadre à la limitation et à l'arrêt de traitement. C'était autrefois, il n'y avait pas de cas, le médecin pouvait être poursuivi pour non-assistance à personne en danger s'il ne posait pas tous les actes qu'il pouvait faire. Et là, c'est l'arrêt de traitement, donc pouvait demander par le patient, mais surtout était réglementé. Et avec l'idée de l'inscrire dans le dossier médical. Le docteur Leonetti disait ce qu'un médecin ne peut pas faire, s'il ne peut pas l'écrire, il ne peut pas le faire. Hein, si on doit faire quelque chose, il faut pouvoir l'écrire. Donc, c'est inscrit dans le dossier médical. Voilà, je trouve que c'est une exigence de vérité, de transparence. Et alors, la nouvelle loi Leonetti-Clay donc prévoit effectivement cette possibilité de la sédation profonde. Hein, une personne qui serait en grande souffrance, il n'y aurait pas d'autre moyen. Ça existait déjà, hein, mais là, ça devient un droit. Quand même, le médecin a un avis à donner, quand même, hein, ce n'est pas un droit opposable. Mais voilà, il y a des possibilités dans la loi qui ne sont pas forcément connues. Et le développement des soins palliatifs est insuffisant en France. Seul un tiers des personnes, hein, il y a eu des études encore récentes en 2017, un observatoire national de la fin de vie, qui disait que seul un tiers des patients qui auraient besoin de soins palliatifs y avaient accès. Donc, voilà, il y a encore matière à développer. Et c'est d'ailleurs la conclusion de l'avis, du dernier avis de la Commission consultative nationale d'éthique, c'est que voilà, il faut encore que la loi produise ses effets. Alors il y a danger, hein, à légaliser le fait de se donner la mort. Cette démoralisation des gens qui sont déjà dans un état dépressif, hein, et par exemple la dépression des personnes âgées est sous-estimée. Ça, j'ai entendu plusieurs médecins le dire. Et donc, voilà, et c'est des personnes qui ont besoin de soutien plutôt que qu'on les achève. Et une chose aussi très importante, c'est que ça change le rôle des soignants. Et c'est un bouleversement énorme. Hein. Un médecin belge disait qu'un de ses collègues, quand il partait le matin et qu'il allait faire une euthanasie, ses enfants le sentaient. C'est pas anodin de donner la mort. Voilà, tenez la piqûre. Hein, je prends une piqûre, mais voilà, c'est... voilà, ce sera un grave changement dans la confiance du rapport entre soignant et soigné. Voilà, ce serait un grave bouleversement. Donc, il nous semble important que dans notre société, on maintienne l'interdit de tuer, même s'il peut y avoir des situations limites. Mais il faut que les gens rendent compte. À partir où on ôte l'interdit, ça, voilà. On voit en Belgique, il y a une commission de contrôle, mais qui ne contrôle rien du tout. C'est tout à fait... voilà. Et voilà, il nous paraît important que nous résistions, et en tant que chrétiens aussi, nous avons ce rôle, à une société où la rentabilité et la santé définissent la valeur de l'humain. Notre valeur en tant qu'être humain ne dépend pas de nos capacités. Alors, un petit point maintenant sur les états généraux de la bioéthique. Donc, au printemps dernier, il y a eu des consultations. Donc, vous en avez peut-être. Est-ce que vous en avez entendu parler dans votre coin d'Alsace, d'avoir des états généraux de la bioéthique ? Oui, oui, oui. D'accord. Est-ce que vous avez participé à des consultations ? Non. Voilà. En fait, alors, on pouvait participer en ligne, mais je trouvais que c'était très compliqué de participer sur le site. J'y ai participé. Et donc, il y a eu les conclusions qui ont été rendues récemment par le Comité consultatif national d'éthique. Au fond, il y avait de grandes réserves qui ont été émises lors des consultations citoyennes sur l'extension de la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, mais le comité ne tient aucun compte de ces réserves. Hein. Ça, c'est estimant que ceux qui ont participé notamment étaient militants contre. Consultation citoyenne avec vraiment... c'est pas très participatif. Alors, c'est vrai que il y avait 9 sujets, hein, mais c'est les deux grands sujets, ça a été la question de l'extension de la procréation médicalement assistée et la fin de vie, hein, qui n'était pas... c'est la dernière... Mais il y a toute la question, par exemple, de la médecine prédictive, qui est aussi une grande question. On a fait une fiche. Alors, oui, je vous signale, je n'ai pas signalé que les fiches... de la commission d'éthique protestante évangélique, donc sont en ligne, c'est http commission, alors c'est assez simple ça, commission-éthique.com. Voilà. Voilà, si vous voulez voir la version complète. Alors, en amont, alors élargissons au niveau européen, il y a eu des textes, il y a eu un texte européen des églises protestantes européennes qui a publié un guide justement de l'éthique de la procréation avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère avait quand même des réserves le fait de que les enfants aient une généalogie compliquée mais toujours avec quand même cette idée de liberté en protestantisme. Alors quand même, avec cette idée que le sens chrétien de la liberté, ce n'est pas confondre liberté et individualisme, c'est aussi la responsabilité, c'est maintenir une responsabilité envers Dieu et envers nos prochains. Et donc... ça ne peut se vivre que dans un esprit d'amour de Dieu et du prochain. Alors, dans ce guide de la Commission d'éthique protestante européenne, alors, il y a une formule intéressante. Par respect pour l'expérience humaine d'être enceinte, on devrait donner la priorité aux méthodes naturelles de procréation. Mais alors, il y a le « mais », c'est très protestant, ça, parce qu'il y a plusieurs tendances, évidemment, c'est « mais pas de façon absolue ». Mais je trouve que c'est intéressant d'oser dire qu'on devrait donner la priorité. C'est déjà la formulation, je trouve, méritait d'être notée. Alors, oui. Alors, j'ai participé au texte de la commission d'éthique de la Fédération protestante. Ce texte qui a été présenté, le comité national d'éthique a reçu les associations et les textes des associations. Et donc, c'était très intéressant parce que, voilà, dans cette commission d'éthique que préside Dr Jean-Gustave Hens, que certains connaissent parmi vous, il y a la présidente de l'Église protestante unie, Emmanuel Siebold. Voilà, il y a des protestants de diverses confessions. Et je dois dire qu'il y a eu un travail vraiment uni. Et si la Commission parle de réticence, en fait, c'est des très fortes réticences. Voilà. Alors, le président de la Fédération protestante était content qu'on n'ait pas dit qu'on était contre. Ça nous différenciait des catholiques. Voilà, je ne trouve pas ça forcément. Mais je peux vous dire que il y avait quand même une conscience globale qu'on était en train de franchir des lignes rouges, là, avec cette extension. Et donc, la commission s'est dit réticente à l'ouverture de l'insémination artificielle à des femmes célibataires ou à des couples de femmes qui ne sont pas infertiles. Qui sont infertiles. Oui, voilà. J'ai du mal à copier. Il nous paraît en effet dangereux d'encourager la fabrication d'enfants à la demande et des situations qui privent volontairement un enfant de son père et pourraient l'exposer à des risques psychologiques et à des discriminations sociales. Il en va également de notre responsabilité à l'égard des générations futures. Voilà. Donc, c'est la question de l'intérêt de l'enfant. On va placer un enfant dans une situation de marginalité sociale et psychologique. Et donc, on prend des risques pour lui, même si ces risques n'étaient pas avérés, même s'il n'y a pas d'études qui montrent que les enfants élevés par des couples homosexuels deviennent psychotiques, eh bien, on ne devrait pas leur faire courir ce risque, même s'il n'y avait que la supposition d'un risque. Et il y a l'idée, c'est intéressant, de notre responsabilité à l'égard des générations futures. Voilà, les adultes disent « je veux maintenant », mais pensons aussi, on a une responsabilité sociale vis-à-vis des générations futures. Alors, au départ, on avait parlé de principe de précaution, et en fait, le principe de précaution, c'est un principe de moratoire. C'est-à-dire que quand vous avez une technique qui n'est pas très au point, eh bien, on fait un moratoire pour tester jusqu'à ce que, eh bien, on soit sûr de l'innocuité d'un médicament, d'une technique. Donc, c'est pas du tout un arrêt, c'est un arrêt provisoire par précaution. Donc, ça ne s'adaptait pas à cette. Et donc, c'est moi qui ai proposé la notion de responsabilité. Voilà, on n'est pas responsable simplement pour nous, on n'est pas simplement responsable vis-à-vis de demandes d'adultes, mais on est aussi responsable du monde qu'on prépare pour les générations futures. Et j'étais très content dans ce texte de la Fédération protestante. Je vous enverrai un résumé en fichier joint. Une des choses qui est dite, c'est au début, c'est voilà, il faut qu'on respecte la diversité d'opinions sans se faire traiter tout de suite de réactionnaire, parce qu'on ne serait pas ouvert. Voilà. Et il faut le dire qu'aujourd'hui, voilà, on se fait traiter de facho si on est. Voilà, que dans un texte de la Fédération protestante, il soit dit il faut qu'on respecte aussi des opinions qui ne seraient pas l'opinion majoritaire. C'est aussi un principe de respect dans le débat démocratique. Donc voilà, je trouve que c'est un texte assez intéressant, assez équilibré. Voilà, donc ça c'est vous donner un peu les... Voilà, et donc la commission d'éthique aussi a publié une fiche, voilà, hein, avec un résumé d'argumentaire. Alors, aujourd'hui, donc, le processus, il y a une commission parlementaire avec des membres de diverses familles politiques qui va débattre. Hein, l'idée, c'est de déminer un peu, l'idée du président, c'est de déminer avant la proposition de loi, qu'en faisant participer dans une commission, voilà, des gens qui ne soient pas d'accord entre eux. Mais la ministre de la Santé a dit, voilà, tous les feux sont au vert pour l'extension de l'assistance médicale à la procréation. Et voilà, ça devrait être débattu, en tout cas, proposé en début 2019. Voilà, si vous avez des questions, voilà, si on peut... Si vous voulez échanger. Et puis, alors, la question se pose, voilà, du type de participation des chrétiens dans ce débat. Voilà, est-ce que finalement ça ne les concerne pas? Je crois que le pire serait l'indifférence. Le grand danger serait l'agressivité, effectivement, hein, de laisser cours à une colère. Mais voilà, hein, c'est ce qu'on est en train de faire là. Aussi, quelle parole par rapport à vos collègues vous pouvez porter, comment ouvrir la discussion, comment témoigner aussi de votre différence chrétienne, même si votre avis est minoritaire. Voilà, n'ayons pas peur, hein, nous, disciples de Jésus, ne crains pas petit troupeau. Oui, nous sommes minoritaires dans ce monde, mais voilà, mais nous sommes aussi témoins du Christ. Alors, la question, c'est comment? Voilà, si vous voulez réagir. Oui. Engin technique. Jésus, il avait le lac de Galilée comme, comme amplificateur. Oui, allez-y. Oui.